mais qu'est-ce qu'elle, professeur Henri Joyeux, qu'est-ce qu'elle doit faire, Coralie, là, avec ses résultats, pour savoir ce qu'il en est, parce qu'elle doit être terriblement inquiète.
Ce que je crois, si j'ai compris ce qu'a dit Coralie, sa petite a des troubles digestifs importants, oui. Dans un sens ou dans l'autre. Ça veut dire qu'il faut absolument qu'elle voit, si vous voulez, un pédiatre qui rétablisse l'équilibre de ce que l'on appelle le microbiote intestinal. Certainement, elle a besoin, elle a un déséquilibre intestinal comme une sorte de petite maladie inflammatoire qui ne devrait pas être très grave, mais qu'il faut traiter avec certainement des probiotiques. Donc, et oui. Ça, si jamais, il faut aller voir un homéopathe pédiatre. Il y en a, vous inquiétez pas, ils vont prendre en charge votre petite et à mon avis, ils devraient l'aider à rétablir son équilibre digestif. Je voudrais insister sur un point. Comment ?
Oui, Coralie.
J'ai pris des contacts avec des médecins, mais des dizaines de médecins. J'ai fait tout ça et on m'a toujours dit que c'était normal, que les tests...
Est-ce que vous avez vu un homéopathe ?
J'ai été voir un homéopathe.
Ah ouais.
Il y a quand même un pédiatre homéopathe, hein, j'entends. Hein, c'est ça qu'il faut aller voir.
D'accord.
Oui.
Et alors professeur Henri Joyeux, attendez, professeur Henri Joyeux, avant de vous redonner la parole, on va donner la parole à Marc Larère. Bonjour Marc, bienvenue sur Sud Radio.
Merci à vous.
Alors vous avez voulu éviter tous ces problèmes-là à votre fille qui a 3 ans aujourd'hui et vous avez refusé de la faire vacciner. Pour quelle raison déjà est-ce que vous avez refusé de la faire vacciner ?
Ah ben c'est somme toute assez simple, tout simplement parce que depuis 2008, l'injection qui ne contient que les valences obligatoires, à savoir ce qu'on appelle le fameux DTP, diphtérie tétanos polio, n'est plus disponible sur le marché et c'est tout à fait officiel puisque on a un communiqué de la SAPS en date de 2008 qui est très précis sur le sujet. Donc on est dans une impossibilité factuelle de pratiquer, de se soumettre à l'obligation vaccinale depuis 2008.
Comment vous faites pour l'inscrire à l'école, à la crèche, etc. Parce qu'on vous demande le carnet de santé quand vous allez inscrire votre fille quelque part.
Eh ben, c'est une des difficultés de notre combat parce que nous on le fait pour tout le monde, pas que pour notre fille. Et à savoir que on est dans l'impossibilité de bénéficier d'une quelconque structure type crèche ou quoi que ce soit depuis le début, quoi.
Ah ouais, et comment vous faites alors au quotidien?
Ce que vous pouvez faire, d'abord, vous pouvez inscrire votre petite dans une crèche. Ils ne sont pas obligés de vous la prendre parce qu'elle est vaccinée.
Professeur, si elle n'est pas vaccinée, ils ne la prennent pas. Oui, Jean-Pierre.
Écoutez-moi. La loi, je la connais. Vous la rentrez, elle n'est pas vaccinée, mais vous devez la faire vacciner dans les 3 mois. Bon, et dans les 3 mois, vous avez un médecin qui vous fait un certificat en disant, désolé, le vaccin DTP pour la petite Dupont, eh bien, il n'existe pas actuellement en pharmacie, les parents ne sont pas contre, ils l'attendent.
D'accord.
Oui,
Marc, allez-y. Marc, allez-y.
Alors, cher professeur, je vous remercie pour vos conseils. Sachez que quand on commence, par contre, à rentrer dans une affaire comme la nôtre, ça se passe pas du tout comme ça. Si je vous expliquais les 3 derniers jours qu'on vient de passer, on est harcelé par la PMI. Ces dernières 48 heures, j'ai fait dormir mes enfants dans un autre lieu que le domicile, parce qu'en parallèle de mon affaire, on est littéralement harcelé par la PMI chez nous, en n'ayant monté aucune inscription. Donc,
Marc, pour qu'on comprenne bien, pour qu'on comprenne bien, votre affaire est actuellement devant les tribunaux. On attend, l'audience a eu lieu le 17 septembre, on attend le résultat de votre procès, ne me trompe pas. Et comment ça s'est passé? Vous avez senti que les juges vous entendaient ou vous avez senti quand même que c'était mal barré?
Alors, je vais être concis, mais justement, à mon étonnement, la juge a commencé par la lecture, donc un rapport de ces fameux services de la PMI, donc la protection maternelle infantile, qui était complètement mensonger, absolument délétère, qui décrivait, qui peignait un tableau de notre couple complètement hallucinant, ce que j'ai pas manqué de faire part à la juge. Donc c'est très compliqué de ça, parce que bien sûr il y a la théorie, mais après il y a la pratique, et nous la pratique, là on est en plein dedans, et sans même tenter une quelconque inscription, on nous tombe dessus à bras raccourcis de tous les côtés. J'étais au commissariat de police ce matin pour faire une main courante, quant à la visite des dernières infirmières de la PMI. Donc là, moi, je suis dans le concret, si vous voulez. Bien sûr que les lois, mais là, je suis dans le concret.
Mais pourquoi vous avez la PMI et tout ça qui vous tombe dessus? Parce que, excusez-moi, professeur, pourquoi est-ce que la PMI et tout ça vous tombe dessus? Puisque l'école n'est pas obligatoire avant les 6 ans de l'enfant, avant le CP.
Eh bien, je ne vais pas parler de mon cas trop longtemps, mais ça permettra quand même un petit peu se comprendre.
Bah si, vous êtes là pour ça.
En l'occurrence, parce que curieusement, il y a un mois et demi, juste avant donc qu'on passe à l'audience, la PMI de notre département aurait reçu un signalement inquiétant à notre égard, et donc en parallèle, ils sont en train de nous mettre une enquête sociale sur le dos, quoi. Et c'est évidemment bon après approuvé, mais on va s'en occuper probablement des pressions, puisqu'il m'a été donné rendez-vous 48 heures avant l'audience.
Mais c'est quelqu'un qui vous a dénoncé à cause de ces histoires de vaccins ou ça n'a rien à voir?
Non, ça n'a strictement rien à voir. Seulement, depuis le début, on a déjà envoyé 2 courriers recommandés. On fait ce qu'on peut pour faire valoir nos droits parce que ces gens-là n'ont aucune prérogative. Ils sont à disposition, mais on peut très bien refuser leur aide. Et on n'a jamais aucune réponse. Mais là, on est en train de s'en occuper très, très, très sérieusement. Et ça risque de se retourner contre eux si Dieu le veut.
Jean-Pierre Auffray, qu'est-ce qu'on peut dire de ces vaccinations obligatoires, de ces carnets de santé et de ce que vit aujourd'hui Marc Larrère? Vous connaissez bien son cas.
Oui, je vais carrément donner la méthode que j'ai prise. Dès la naissance de mes enfants, j'ai inscrit sur leur carnet de vaccination à la page ad hoc, ne pas vacciner, le père, la date, signature. Et avec ça, malgré tout, et scolarisation en école publique et tout ce qu'on voudra, j'ai pu continuer sans qu'on m'embête.
Oui, mais Marc, il vit l'enfer, là.
Le médecin scolaire s'est avisé de cette absence de vaccination. Nous nous sommes rencontrés. Ça a représenté une petite heure de discussion. Elle a très bien compris que les enfants n'étaient pas en danger et que je ne changerai pas de position. Et pour la suite, alors que l'inspecteur d'académie voulait faire un exemple en excluant ma fille de l'école primaire, elle a même pris notre défense, et pour rajouter là-dessus, au moment de ce débat, il y avait une représentante des parents d'élèves qui a dit « j'ai eu suffisamment de problèmes de vaccination avec ma fille pour que... » Bon, l'inspecteur n'a pas insisté et mes enfants ont poursuivi leur scolarité sans problème.
Alors Jean-Pierre, Marc, professeur Henri Joyeux et Coralie, nous sommes avec un avocat. Bonjour, vous appelez Jean-Pierre également, je crois.
Oui,
Jean-Pierre Joseph, bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Vous nous entendiez et vous avez voulu intervenir par rapport à tout ce que vous avez entendu, et notamment, j'imagine, le témoignage de Marc et le témoignage de Coralie.
Bien sûr. Bon, oui. Je précise que je connais un peu la question, puisque j'ai écrit un livre qui s'appelle « Vaccin, on nous aurait menti », qui est sorti dans sa 3e édition, donc il a été édité 3 fois.
Oui.
Et dans lequel, moi, je me pose la question, effectivement, comme il a été dit tout à l'heure, est-ce que les vaccins sont vraiment efficaces? Parce que moi, je me pose des questions depuis pas mal d'années. J'en ai pas eu le vaccin. Je suis allé dans pratiquement tous les continents. J'ai traversé des zones dites à risque. Et j'ai pas eu de vaccin. J'ai pas été malade ni rien. Et si je dis ça, c'est parce que je constate, en regardant les courbes avec du recul, que chaque fois qu'on a vacciné pendant une épidémie, dans les mois qui ont suivi, le nombre de cas s'est multiplié.
Professeur Henri Joyeux, vous confirmez là ce que nous dit Jean-Pierre Joseph?
Alors, oui, attention. D'abord, la première chose, quand lui traverse le monde et n'a pas de maladie, ça veut dire qu'il est en bonne santé. Et que probablement, par ce qu'il a vécu dans sa vie, il est vacciné par tous les contacts qu'il a eus depuis sa naissance. Ça, c'est un premier point, mais on ne peut pas conclure à partir d'un cas et généraliser sur toute une population ou une génération. Ça, c'est un
point.
Deuxième point, il a tout à fait raison en disant qu'il y a certains vaccins, et on peut prendre actuellement celui contre la polio. Eh bien, celui contre la polio, on est inquiet parce qu'il y a une sorte de résistance du virus de la polio, et on voit actuellement, mais dans des pays qui ne sont pas le nôtre pour l'instant, des polios après la vaccination. Alors, c'est un peu complexe, tout ça je l'explique dans le livre, mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une interrogation sur l'efficacité des vaccins.
C'est clair, professeur. Professeur, moi je suis partie en Inde, donc je peux en parler. J'ai eu un vaccin contre les hépatites, j'ai toutes les hépatites, tous les vaccins, tout ce qu'il fallait. Je suis rentrée, j'avais une hépatite E, le truc, il n'y a pas de vaccin. Donc j'ai quand même attrapé une hépatite. Donc c'est vrai que le vaccin c'est bien. Peut-être que j'aurais attrapé une hépatite plus grave si j'avais pas été vaccinée du tout. Mais c'est vrai qu'on se pose des questions. Jean-Pierre Joseph, je ne crois pas.
Et d'ailleurs, ce que je regrette, c'est que le corps médical actuellement, mis à part certaines exceptions, comme le professeur Joyeux qui se pose des questions, et c'est tout à son honneur, le corps médical, dans sa grande majorité, est dans une religion. C'est-à-dire que dès qu'on conteste quoi que ce soit, qu'on n'est pas dans la pensée unique, tout de suite on est un illuminé, on est membre d'une secte, etc., etc. On se contente de poser des questions. Parce que on ne réfléchit même pas au fait que la peste, le choléra, la suette picarde, la scarlatine, le chikungunya, la pneumopathie atypique, la grippe aviaire, Ebola, se sont arrêtés sans vaccin. Ça n'interpelle personne. Et moi je rencontre plein de gens de ma génération qui ont eu la polio alors qu'ils étaient vaccinés. Et quand je regarde les chiffres et ce que disent des dizaines de médecins et de biologistes que j'ai cités dans mon livre « Vaccins, on nous aurait menti », je me dis qu'il y a quand même un problème et que les produits qualifiés de vaccins ne vaccinent pas et qu'effectivement on nous a menti ou on nous
Jean-Pierre Joseph, dans le cas de Marc Larrère, donc qui se retrouve carrément devant la justice parce qu'il a refusé de faire vacciner sa fille, est-ce qu'il a des chances d'être condamné?
Ben moi je vois pas en quoi un père de famille à qui on dit les trois vaccins obligatoires on les a plus. Bon, mais vous pouvez avoir des vaccins en plus. Et alors il fait des recherches, la plupart des gens sont réagissent comme dévots, c'est-à-dire qu'ils cherchent rien du tout. On m'a dit, donc on a raison. Hein, ça a été le cas pour l'amiante, pour le distilbène, la thalidomide, le médiator, le vioxx, etc., etc. On ne se pose aucune question, y compris des experts qui, pour l'amiante, disaient jusqu'à ce que TF1 dise « attention, il y a un danger », tous nos experts, nos brillants experts de santé publique, nous disaient oh « non, ça craint rien ». Bon, ce monsieur Larrère s'est posé des questions, a fait des tas de recherches. Bien plus que ce que font la grande majorité des parents. C'est tout à son honneur. Il découvre que les vaccins non seulement sont inefficaces, dangereux, et qu'en plus on veut lui enfourguer avec des valences qui n'ont rien d'obligatoire. Donc il dit non. Moi je dis qu'il a raison, et je vois pas comment on peut le condamner pour maltraitance, parce que le problème juridique qui va se poser, c'est de savoir s'il y a maltraitance à ne pas donner ce que d'autres considèrent comme un poison à ses enfants. J'indique entre parenthèses que, par exemple, puisqu'on a utilisé le terme de poison tout à l'heure, le docteur Tal Schaller a écrit un livre qui s'appelle « Les vaccins sont des poisons ». Il a écrit également « Vaccins génocide planétaire ». Bon, donc, il y a quand même beaucoup de scientifiques que je cite dans mon livre qui se posent des questions et qui disent « Attention, arrêtons le massacre ». Et monsieur le professeur, c'est tout à votre honneur de réclamer des vaccins sans adjuvants, mais j'ai bien peur que ce soit comme la femme battue qui revendiquerait le droit d'être battue, mais uniquement à main nue et pas avec un bâton. C'est vrai que c'est une amélioration, mais on n'a pas de
vous voyez. Très, très bien.
Oui, j'aimerais demander, moi, à Coralie, si aujourd'hui vous êtes prête à faire vacciner votre fille, à faire les rappels, etc., pour les vaccins déjà obligatoires, quand vous voyez le résultat de Méningitech.
Eh ben, écoutez, je ne suis pas naso. On m'a une fois... Donc c'est terminé. Et je vous demanderai, vous, si on vous trahit demain, est-ce que vous referiez confiance?
Ah non, c'est sûr. Là, écoutez, moi, je me posais vraiment pas de questions avant de commencer à préparer cette émission. Sylvia, je sais pas vous.
Non, moi, je m'en posais aucune. Pour moi, c'est vrai que j'avais entendu des cas de gens qui ne vaccinaient pas leurs enfants, mais ça me paraissait une aberration. J'avoue que là, je suis les yeux écarquillés. D'ailleurs, on m'entend pas. Quand on m'entend pas, en général, c'est que je suis sous choc. Hein. Voilà, et je me dis, mais bon, oui, je sais pas ce qu'il faut faire. En fait, je sais plus. Je suis un peu perdue.
Professeur, il faut quand même continuer à vacciner un peu ou pas du tout?
Il y a ce qu'on appelle un calendrier des vaccinations qui est mis à jour tous les ans. Bon, ce qui est curieux, c'est qu'il change assez régulièrement. Alors, première chose, et ça c'est pour les mamans qui viennent d'accoucher, parce que c'est elles qui sont inquiètes. Premièrement, on les inquiète en disant, vite, à 2 mois, il faut vacciner votre petit,
mais
et donc
oui.
contre les 6 valences. Moi, je dis que ça, il ne faut pas le faire.
Attendez, excusez-moi, professeur. Excusez-moi, avant de continuer, Jean-Pierre voulait réagir.
Avant de parler des 2 mois, maintenant, on pousse à faire l'antihépatite B dès le jour de naissance. Ce que font les Américains, ce que font les Espagnols.
Et
l'OMS ça. Pousse dans ce sens.
Bientôt, ils vont vacciner les hétéros.
Je croyais que vous alliez dire. Mon Dieu. Professeur. Professeur, je suis obligée de vous interrompre une nouvelle fois parce qu'on est obligé de marquer une petite pause. On va continuer dans quelques instants. Vous restez bien avec nous. Merci à Jean-Pierre Joseph d'être intervenu. Vous nous avez entendu, vous nous avez appelé. Vous êtes auteur, rappelez-nous de votre livre.
Ça, on nous aurait menti aux éditions Marco Pieter. C'est Testé Édition.
Sud Radio, c'est vous, Isabelle Bresse.
Et comme tous les mercredis, nous parlons de vos enfants dans cette deuxième heure, les vaccins. Faut-il les vacciner ou pas ? J'avoue que j'apprends beaucoup de choses et que Sylvia et moi, qui étions de bonnes élèves avec des carnets de santé, des carnets de vaccination à jour, etc., on a tendance à prendre un peu peur. Est-ce qu'il faut avoir peur, professeur Joyeux ?
Alors, écoutez, comme je disais, donc il y a un carnet de vaccination, il y a un calendrier de vaccination qui est donné par l'État, qui change assez pratiquement tous les ans. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il faut d'abord avertir les jeunes mamans que pour celles qui font le choix de l'allaitement maternel, c'est quand même pas négligeable, c'est-à-dire à peu près 57% des femmes qui mettent au monde un enfant dans notre pays, alors que c'est 98% en Allemagne et en Scandinavie. Bon, donc pour celles qui font ce choix, tant que l'enfant est allaité intégralement par la maman et l'Organisation mondiale de la santé dit idéalement 6 mois, plus matin et soir pendant une année, c'est-à-dire matin avant de partir au boulot et le soir au retour du travail, eh bien à ce moment-là, l'enfant est vacciné par le lait maternel, sauf si la maman est porteuse, bien sûr, du virus de l'hépatite B. Mais ça, c'est quand même pas un grand nombre de mamans ou de papas qui sont porteurs de ce virus. Donc ça n'est pas inscrit dans le calendrier des vaccinations. Donc déjà, on trompe les familles. Et en même temps, on peut se demander est-ce qu'il n'y a pas une collusion entre les laboratoires des vaccinations et ceux qui préparent les laits dits maternisés et compagnie pour pousser les mamans à consommer des laits qu'on trouve en pharmacie qui coûtent beaucoup plus cher que le lait maternel. Donc ça, c'est un aspect important. Deuxièmement, il y a également le fait que les enfants qui sont en bonne santé et qui vont, par exemple, ne pas être vaccinés, vont être acceptés dans une crèche où tous les autres sont vaccinés. Comment se fait-il qu'un enfant qui attraperait une maladie dans une crèche où tous les enfants sont vaccinés, comment peut-il transmettre cette maladie aux autres qui sont vaccinés ? Faut qu'on m'explique. Quel est un enfant qui rentrerait dans une crèche non vaccinée, en quoi est-il dangereux pour ses camarades ? Faut qu'on m'explique ça. Vous comprenez ?
Professeur.
Alors, ce qui se passe, c'est qu'on impose tout ça aux familles, et les familles, elles en ont marre de se faire exploiter.
Professeur, nous sommes également avec Bernard Guenbaud. Bonjour Bernard, bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes mathématicien, vous êtes passionné du problème du vaccin, et vous plutôt d'un point de vue épidémiologique. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, voilà, c'est-à-dire que je vais plutôt m'intéresser à la façon, à l'impact, si vous voulez, par exemple, d'une campagne de vaccination sur une population d'un point de vue de la transmission, par exemple, de la maladie, etc. Alors, si vous voulez, pour être clair, il y a deux grands principes généraux pour lutter contre des maladies contagieuses ou transmissibles. Alors, le premier, c'est de rendre les individus résistants à la contamination, donc c'est la vaccination.
Oui.
Et le deuxième, c'est d'essayer de réduire ou de supprimer complètement même le risque de transmission, de contagion. Ça peut être l'isolement des malades, la surveillance des contacts, leur isolement, ou la lutte contre des vecteurs de transmission qui peuvent être l'eau, par exemple, pour la polio. On fait beaucoup, par exemple, dans un pays comme la France pour la protection de l'eau, l'assainissement, ou les moustiques, par exemple, pour la fièvre jaune. Alors, ce qui est intéressant, ce que je voulais vous dire, c'est que l'obsession du vaccin peut compromettre la mise en œuvre de moyens pouvant faciliter, par exemple, la guérison de la maladie ou réduire sa transmission. Alors, je vous donne un exemple pour faciliter la guérison et qui intéresse toutes les mamans. C'est la diarrhée du nourrisson.
Oui.
Alors, en 2006, il y a eu les vaccins rotavirus qui sont arrivés et qui avaient obtenu une AMM. Seulement, le Conseil supérieur d'hygiène publique de France de l'époque ne recommandait pas leur utilisation. Par contre, il recommandait les solutés oraux de réhydratation, c'est-à-dire les SRO, qui sont pas coûteux, qui sont efficaces contre toutes les diarrhées, et même jugés efficaces contre le choléra. Mmh. Confirmation de cette non-recommandation en 2010 par le Haut Conseil de Santé publique qui remplace le Conseil supérieur d'hygiène. Alors, je vous donne une citation, si c'est possible, du président de la Commission Sécurité Sanitaire du Haut Conseil, qui avait d'ailleurs présidé le Conseil supérieur d'hygiène, Christian Perron. Ce vaccin, dit-il, n'a pas un bon rapport coût-efficacité. En France, il aurait un impact extrêmement marginal. 5 décès par an par le rotavirus, responsable seulement d'un tiers des diarrhées. Il existe d'autres moyens de lutte qu'il faut promouvoir, et la vaccination inciterait à en faire mauvais usage. Il faut penser à un effet délétère de la vaccination, incitant à négliger les bonnes règles contre la diarrhée. Et on a aussi un manque de recul sur la tolérance. Donc à cette époque-là, il aurait fallu que le ministère conduisent une campagne d'information auprès des médecins et des familles en faveur de ces bonnes règles pouvant favoriser l'usage. Malheureusement, rien n'a été fait. Et en novembre 2013, constatant que les solutés de réhydratation n'étaient plus utilisées, le Haut Conseil va recommander la vaccination rotavirus pour tous les nourrissons. 17 mois plus tard, le 21 avril 2015, suite à plusieurs cas d'invagination intestinale mortelle, c'est-à-dire des inclusions, le Haut Conseil suspend cette recommandation de vaccination. C'était il y a seulement 5 mois.
Donc ça veut dire qu'on dit tout, en gros ce que vous dites c'est qu'on dit tout et son contraire et qu'il ne faut pas forcément se fier aux recommandations de base. En tout cas, effectivement cette discussion était passionnante et je pense qu'on aurait pu faire les deux heures et je pense qu'on va en reparler pour les adultes. Bernard Guenbeau, j'espère que vous pourrez être avec nous parce que effectivement il y a beaucoup de choses qui se sont dites et on vous a peu donné la parole, j'en suis désolée et on va vraiment refaire une autre émission cette fois-ci pour parler des adultes et de la vaccination. Je vous remercie infiniment. Merci Jean-Pierre Auffray. Je rappelle que vous êtes président de la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations. Merci également à Marc Larère et on vous souhaite bon courage pour ce résultat
de procès. Oui,
et ben pareil, je pense qu'on va refaire une émission Marc Larère parce que vraiment il y a beaucoup de choses à dire. Merci au professeur Henri Joyeux et profitez bien de la réunion même si vous êtes là pour travailler. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Et merci à Coralie également d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes porte-parole du collectif Agir tous ensemble. Vous pouvez appeler ce collectif bien sûr ou le joindre sur internet. On va mettre un lien sur le Facebook de l'émission Sud Radio, c'est
et
vous.
S'il vous plaît.
Oui, rapidement, dites-nous, Coralie.
Il faut contacter l'UNAX.
L'UNAX, voilà. L'UNAX, on va mettre le lien sur le Facebook de l'émission. Donc n'hésitez pas, si votre enfant ou vous-même avez été victime d'un vaccin, et notamment du méningitex, n'hésitez pas, l'UNAX, U-N-A-C-S. Et nous, on vous embrasse bien fort, on vous dit à demain, et je vous souhaite une excellente fin de journée avec Sud Radio, bien sûr.